Mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais même pas la notion de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
C'est...
Oh. S...
M.
Oh. S.
C'est le cosmos. L'an 3012, fin de l'Odyssée interstellaire, arrivé sur Trappiste 1.
Wow. Attends, tu vas trop vite. Moi, j'aimerais bien vous parler du cosmos, certes, mais des premiers êtres vivants à être allés dans le cosmos. Il y a bien longtemps, en 1700, je ne sais plus combien, les frères Montgolfier ont inventé le ballon à air chaud. Avant d'envoyer un homme ou une femme dans le ciel, ils ont d'abord envoyé un coq, un canard et un mouton. Ce sont donc les premiers êtres vivants à avoir exploré le ciel. Puis, plus tard, durant la course à l'espace entre les États-Unis et la Russie, les scientifiques ont voulu tester et découvrir ce qu'ils ne connaissaient pas.
Attends, ça c'est en quelle année ?
Pendant la guerre froide. Donc, les scientifiques, durant la course à l'espace, ont voulu tester avec des animaux quels effets avait l'apesanteur sur leur squelette, sur leur corps, le vieillissement, les radiations, si on pouvait bouger en apesanteur, si nos capacités intellectuelles fonctionnaient correctement, et si on pouvait rester en vie déjà dans une capsule pressurisée.
Mais comment ils ont pu voir si ça fonctionnait, s'ils avaient des caméras, des micros dans le capsule qui partait dans le ciel, ou comment ça se passait ?
Ils envoyaient des pigeons voyageurs ?
Non, ils n'envoyaient pas de pigeons voyageurs, mais en effet, ils avaient, à l'époque, quelques ordinateurs, des capteurs, en fait, c'est ça. C'est qu'ils ont d'abord voulu... Bon, je reprends. Les premiers êtres vivants à être dans l'espace, ce sont les Américains qui les ont lancés, ce sont des mouches. Bzzz. On les a tirés depuis le Nouveau-Mexique. Dans la fusée qui s'appelle V2. Elle est juste allée à 109 km en altitude pour étudier du coup les effets des radiations sur elle. La mission fut un succès.
Si je peux juste compléter sur les V2, faut savoir que c'était pas des fusées à la base, c'était des roquettes d'armement. Et en fait, c'est une technologie allemande qui est devenue américaine et ça a permis, si on n'avait pas développé l'armement, on pourrait pas être dans le ciel, c'est un peu paradoxal.
Ça fait peur. Puisque les mouches sont revenues vivantes et que c'était un succès, les Américains ont après tiré le premier vertébré, un singe, un tout petit singe rhésus de son espèce, qui s'est appelé Albert II, dans une autre fusée V2, ça c'était en 1949. Lui, il est monté un peu plus haut, à 134 km d'altitude, mais malheureusement, il n'a pas survécu. Pendant ce temps-là, la Russie veut rester dans la course. Donc, ce qu'ils font, eux, ils se sont dit, on va voir un peu plus grand. Ils ont trouvé des chiens errants dans la rue, mais surtout des chiennes. Pourquoi ? Parce que envoyer un chien dans l'espace, ça va pas, mais une chienne, elle lève pas la patte. Donc voilà, c'était vraiment une raison. En 1957, ils ont envoyé Laïka, une chienne errante, du coup, qu'ils ont entraînée pendant plusieurs semaines à vivre dans des conditions enfermées, comme être envoyée dans l'espace. Et elle est partie à 1700 km d'altitude. Mais ils avaient déjà prévu, à la base, les Russes, de la sacrifier, puisque le retour, ils ne savaient pas faire revenir la navette, en fait.
Donc, si on se met à la place de Laïka dans le vaisseau, elle est attachée, c'est depuis la Terre qu'on commande le vaisseau, ça traverse l'atmosphère, Et on sait que ça va se désagréger, ça va se détruire, on ne pourra jamais la faire revenir.
Oui, ils ne pensaient pas... Alors déjà, c'est ça, c'est que pour répondre à ta question de tout à l'heure, Laïka avait un petit costume de cosmonaute et elle avait des capteurs. Et du coup, ils pouvaient suivre à distance ses... comment on appelle ça, sa pression du cœur, les battements, les machins, la température, tout plein de choses. Elle était donc dans une petite capsule, elle ne pouvait pas bouger parce qu'elle était vraiment enfermée dans sa capsule. Et quand ils ont tiré la fusée, ils sont aperçus qu'elle a eu beaucoup trop chaud, la température est montée très vite, que ses pulsations se sont accélérées et du coup elle n'a pas survécu. Mais ils avaient prévu dans sa nourriture de l'empoisonner.
Pour qu'elle disparaisse sans rester dans l'espace, dans le vide, quoi.
C'est ça, pour ne pas qu'elle souffre. Bon, alors, pendant ce temps-là, après, les Russes ont continué à envoyer des chiennes dans l'espace et ils ont fait une autre tentative. Donc, il y avait, dans ce vol-là, deux chiennes, un lapin, un rat, une souris, des mouches, des plantes, un champignon. Et là, c'était le tout dernier test avant d'envoyer un humain. Et ça a été un vrai succès. Tout le monde est revenu sain et sauf. Et je terminerai par la France a voulu rejoindre la course. C'est donc le troisième pays à avoir tenté d'envoyer des êtres vivants dans l'espace avant les humains. Mais eux, pour se distinguer, ont choisi d'envoyer un chat. Donc pareil, un chat errant qu'ils ont trouvé. Enfin, ils en ont trouvé 14, ils les ont entraînés et ils en ont envoyé un. En 1963, dans la fusée Véronique. La chatte s'appelle Félicette et elle a été tirée en orbite depuis l'Algérie. Il existe aussi une statue dans Paris en son hommage.
Pauvre Félicette.
Voilà, si on veut dire quelque chose.
Ah non, la mission a réussi, hein. C'était OK, pardon. Oui, je me suis mal exprimée. Félicette, l'expérience du chat dans l'espace par la France a fonctionné, c'est une mission OK.
Elle est revenue.
Mercredi.
Les Astraplanétis, l'Odyssée interstellaire de Charlie, Léo et Anna. Épisode 1, le voyage. Ils sont trois aventuriers au cœur plein d'espoir et d'envie de découverte spatiale. Charlie, Anna et Léo sont les héros de notre aventure interstellaire, les Astraplanétis. Entrons dans leur vaisseau et partageons leur voyage au travers du journal de bord. Jour 1. Après des mois de préparation, enfin le décollage pour des aventures encore inconnues et des rencontres qui changeront nos vies. Nous avons travaillé longtemps pour aménager le vaisseau Titan et le préparer à traverser le système solaire.
Alors, revenons juste le 5 septembre 1977, avec le décollage de la sonde Voyager 1, qui s'envole pour la plus grande mission lancée, plus grande odyssée lancée par les humains. Avec pour but d'explorer les planètes externes du système solaire, Jupiter et Saturne. La mission, voilà, la sonde part pour une mission d'environ 6 ans, 6-7 ans.
Jour 8, nous passons devant Jupiter. Ne sommes-nous pas si insignifiants face à cette géante gazeuse et à sa tempête perpétuelle ? L'équipage ne cesse de regarder par les hublots. Nous voulons profiter de chaque instant passé à côté de cette planète si incroyable d'un rouge particulier. Le silence se fait dans le cockpit. C'est un instant que nous voulons garder pour nous. J'essaie de noter beaucoup de détails de Jupiter dans ce carnet et de dessiner quelques croquis.
Le 14 décembre 1980, soit un peu plus de 3 ans après son décollage, Voyager 1 commence à prendre tous les jours des photos de la planète Jupiter. Elle arrive à Jupiter 80 jours après. 80 jours plus tard, le 4 mars, et le 5 mars, elle passe à seulement, entre guillemets, 349 000 km du centre de Jupiter, et pareil, prend encore plein de clichés. Tout le survol de Jupiter lui permet aussi de découvrir certaines nouvelles lunes de notre géante gazeuse, et de faire plein de découvertes sur ces lunes-là, notamment que sur la... lune qui s'appelle Io, il y a une activité volcanique hyper importante, alors qu'avant on pensait que c'était réservé à la Terre. Survoler Jupiter lui permet aussi à la sonde d'attraper la force gravitationnelle de la planète et du coup de reprendre de la vitesse pour s'envoler, pour partir très rapidement vers sa prochaine étape, Saturne.
Après avoir passé trop de temps dans ce cockpit à réparer certains systèmes électriques, je reprends enfin l'écriture de ce carnet de bord. Nous sommes face à Saturne. Toute ma vie, j'ai fantasmé sur ses anneaux, sa forme ronde, incroyable, que je regardais à travers le télescope de mon enfance. Et les découvrir maintenant dans ce silence de l'espace est un moment que je n'oublierai pas.
Est-ce que Saturnin, le canard, ça vient de Saturne ?
Oui, exactement, par sa couleur jaune.
Alors, le 10 novembre 1980, Voyager 1 entre dans le système planétaire de Saturne. Le lendemain, elle fait un survol très très proche de sa planète qui s'appelle Titan, qui est aussi le nom de ton vaisseau, Titan, et qui est également le nom de la fusée qui a envoyé Voyager dans l'espace. Le 10 novembre 1980, Voyager 1 pénètre dans le système planétaire de Saturne. Le 11 novembre, le lendemain, elle effectue un survol très rapproché de Titan, de sa célèbre lune Titan, qui est aussi le nom de ton vaisseau spatial, et le nom de la fusée qui a permis d'envoyer Voyager dans l'espace. Le 12 novembre, le lendemain, elle survole le pôle sud de Saturne, de la planète, et ensuite elle reprend la gravité, s'en va directement vers l'héliosphère. Elle ne va pas aller voir les autres planètes du bout du système solaire. Elle s'en va. Sa première mission est terminée. Et elle va en démarrer une deuxième qui est de continuer jusqu'où elle peut.
Depuis que nous avons passé Saturne, il y a cela de plusieurs heures ou jours, j'avoue me perdre dans le temps qui passe au fur et à mesure où nous quittons le Soleil et son système. En tout cas, depuis que nous avons passé Saturne, Charlie et Léo ont changé. Je ne saurais dire comment, mais ils ont changé. Nous avons sans doute tous changé. La Terre peut-être commence-t-elle à nous manquer ? Hier soir au dîner, nous n'avons cessé de parler de ces deux planètes bleues. Elles étaient bien là, Uranus et Neptune, et nous les avons vues de nos propres yeux. Elles sont d'un bleu incroyable. Charlie a été la plus surprise par la vision de ces deux planètes. Chaque avancée dans l'espace nous réserve son lot de surprises. Chaque planète renforce notre certitude d'avoir fait le bon choix en partant pour cette mission interstellaire.
Alors, s'il y a une sonde qui s'appelle Voyager 1, il y en a bien une qui s'appelle Voyager 2. Alors, Voyager 2, c'est la sœur jumelle de Voyager 1, qui, elle, a décollé quelques jours avant. J'ai plus la date exacte, mais quelques jours ou quelques mois avant Voyager 1. Et dont elle, sa mission, c'était effectivement d'aller voir Uranus et Neptune.
Donc les autres planètes que Voyager...
plus à l'extrême, qui sont à l'autre opposé du système solaire. Voyager 2 est parti en premier, mais elle aurait dû s'appeler Voyager 1.
Mais oui, mais pourquoi Voyager 2 est parti avant Voyager 1 ?
Et voilà, tout ça parce qu'en fait, elles n'ont pas pris tout à fait les mêmes routes au départ. Et à un certain moment, en fait, ils avaient calculé que par les forces gravitationnelles, Voyager 1 allait passer devant Voyager 2 très, très rapidement après son décollage et deviendrait finalement l'objet terrestre le plus en avance, le plus éloigné de la Terre et de manière exponentielle.
Plusieurs heures, plusieurs jours relancent notre aventure dans le vide spatial. Nous traversons la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. Beaucoup d'objets semblables à des astéroïdes, composés d'eau glacée, de méthane, composent la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. Ils sont notre dernière étape difficile avant la sortie de notre système solaire. Ils sont un témoin de la construction de notre univers, car résultant de sa formation. Heureusement que notre vaisseau Titan est doté de la dernière technologie, en vue de traverser ces obstacles impressionnants et massifs grâce au bouclier insubmersible.
Le 14 avril de 2010, la NASA a annoncé que Voyager 1 était avait atteint l'héliosphère. Alors l'héliosphère, c'est quoi ? C'est la zone de notre système solaire où en fait le vent solaire n'a plus d'influence.
L'alpha du Centaure. Ça y est, il est là, le fameux, l'unique, le théorique. Nous sommes dans la constellation du Centaure, l'alpha du Centaure. Je mets quelque temps à découvrir Proxima B, ne regardant pas à travers le bon hublot. Vite de l'autre côté et la voilà, cette planète située au plus près de notre système solaire, mais si éloignée de la Terre, 4,24 années-lumière. Tout ceci n'est que le début de leurs aventures, ils sont aux prémices de leur découverte du lointain.
Deux autres petites choses à savoir sur ces missions. 14 février 1990, sous l'impulsion de Carl Sagan, qui est un astrophysicien très connu à l'époque, la NASA accepte que la sonde se retourne. Alors qu'elle est déjà rendue plus loin que les planètes Neptune et Uranus, elle est rentrée dans les zones interstellaires. La sonde se retourne et prend 60 clichés pour un petit portrait de famille en fait, de la galaxie. Et là, on a notamment un selfie de la Terre, en fait, le selfie où il y a tout le monde, quoi. On est tous dessus. Aussi une photo où il y a juste un tout petit point bleu minuscule qui est traversé par un rayon de soleil. Voilà, le seul selfie où on est tous dessus.
Tous dessus, tu veux dire quoi ?
Tous les humains sont dessus. Autre petite chose un peu particulière par rapport à la sonde, toujours sous l'influence de Carl Sagan, il y a un disque vinyle en or qui avait été gravé avec certains morceaux de musique et des voix d'enfants dans différentes langues, des enfants qui parlent, des bruits d'animaux. Au cas où la sonde est interceptée par des intelligences extraterrestres ou qu'elle arrive dans un autre système planétaire avec des intelligences qui seraient capables de décoder ça. Donc voilà, il y a un disque avec des voix d'enfants, des chansons qui sont envoyées. Il y a également un plan avec des pulsars pour indiquer où se trouve la Terre dans notre galaxie. Et il y a également un dessin d'un homme et d'une femme nus pour montrer à quoi on ressemble et à quoi ils peuvent s'attendre s'ils viennent nous voir.
Donc c'est fou, ça veut dire que Voyager est parti, on l'a lancé pour qu'elle aille explorer notre galaxie et qu'on en ait des photos et qu'on voit ce qui se passe, mais en même temps, dans le but de croiser peut-être des extraterrestres.
On ne sait jamais. Et puis du coup, pour leur dire coucou. À moins qu'elle percute quelque chose, elle ne pourra pas être abîmée, altérée, parce qu'il n'y a rien qui puisse, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène qui peut la faire disparaître. Donc du coup, ça peut être dans 20, 30 000, 50 000, 100 000 ans, enfin on ne sait pas.
Parce qu'aujourd'hui, elle est où ?
Aujourd'hui, elle se trouve, très exactement, enfin en avril, elle se trouvait à 21 673 605 500 000 km de la Terre.
Et quand on dit des vies extraterrestres, c'est juste qu'elles sont extra en dehors de la Terre, quoi. On ne s'imagine pas forcément des bonhommes verts.
Non, des intelligences extraterrestres.
Qui seraient en dehors de la Terre et certainement du coup de notre galaxie. Moi, je voulais vous parler aussi de... Tout à l'heure, je vous ai parlé des animaux. Je voulais vous parler d'un tout petit organisme, un petit animal microscopique qui s'appelle le tardigrade. Son autre nom aussi, c'est l'ourson d'eau. Il mesure 1 mm, je crois. C'est une petite bestiole comme ça, toute microscopique. On dirait un petit cochon qui n'a pas de peau. Il est tout rose, avec des petites griffes et une trompe. Voilà. Et il y a eu un programme en Suède, le programme TARDIS, c'est-à-dire c'était pour tester la résistance des tardigrades, de les envoyer dans le vide spatial pour voir, du coup, pour faire des expériences sur cette bête-là. Donc on a constaté que les tardigrades supportaient tout. En fait, elle supporte la grande amplitude thermique, donc allant de 0 à 150 degrés. Donc la chaleur, ça leur fait rien. Le froid, ça leur fait rien. Elle supporte la pression d'un hypothétique océan de 60 000 km de profondeur. Si on envoyait la tardigrade tout au fond d'un océan qu'on ne saurait pas, nous, aller aujourd'hui explorer les fonds sous-marins, la tardigrade, ça leur ferait rien du tout. Donc on les a mis dans des conditions extrêmement dures, donc le rayonnement du soleil, les ultraviolets, la déshydratation, tout ça, elles ont survécu. On les a mis sous des radiations aussi, ça leur fait rien. Ça a juste modifié un peu leur ADN, mais elles savent reconstituer leur ADN. Elles ou ils, un tardigrade ?
C'est neutre, j'imagine.
C'est neutre, je pense aussi. Donc c'est fou. On se demande même, il y a aussi des théories, on se demande mais que font les tardigrades sur notre planète Terre alors que les conditions ne sont pas assez rudes pour elles parce qu'elles sont hyper résistantes ou résistantes, on ne sait pas. Mais seraient-elles d'une autre provenance que la Terre ? Bon, ça, c'est une théorie, une hypothèse, hein, parce que forcément, on se demande. Et aujourd'hui, on étudie encore les tardigrades pour savoir si nous, les humains, enfin, on pourrait comprendre leur ADN, leur code, comment c'est fait pour qu'elles se régénèrent et qu'elles ne souffrent d'aucune de tout ça. Voilà.
Mais elles n'ont pas d'effet néfaste avec nous, en fait, envers nous.
Non.
Elles existent juste sur la Terre.
Elles existent sur la Terre, il y en a à peu près partout, et je crois qu'elles existaient déjà au temps des dinosaures.
Ouais, elles ont muté en fait, elles ont réussi à passer toutes les étapes de les cinq grandes phases de destruction de la vie sur Terre, et elles sont toujours là en fait.
Oui, c'est incroyable. Mais ils peuvent se mettre des décennies en off, enfin en hibernation ou cryo machin, je sais pas, je sais plus.
Ouais.
Cryogénifié, et ça leur fait rien.
Mais ils mangent quoi ?
Je sais pas ce qu'ils mangent, mais je sais qu'on les trouve notamment dans des gouttes de rosée. Tu sais, le matin, quand le jour se lève sur la planète, il y a des rosées, bah on trouve plein de tardigrades dedans.
L'odyssée des astraplanéti va encore durer un certain nombre d'années et ils vont découvrir des planètes insoupçonnées. Et on a hâte de découvrir la suite de leurs aventures dans de prochaines émissions sur le cosmos.
We'll be right back.
Mercredi. 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 Mercredi.